Ça ouvre plein de questions. Moi, j'en avais une, à moins que d'autres personnes qui souhaitent intervenir, mais moi, j'en avais une quand même qui me turlupine un petit peu, c'est au fond, qu'est-ce que tu... Si tu devais faire l'interprétation de l'esprit de la loi, et peut-être aussi de l'esprit du rapport Mechmash-Baquet, quelle est l'intention, en fait, du politique? Au-delà de l'idée même de participation, etc., comment est-ce qu'on pourrait caractériser l'esprit du législateur ou du ministre? Alors peut-être qu'il y en a qui pourraient répondre à ça aussi dans la salle. voilà, mais c'est pourquoi faire en réalité, de ton point de vue, cette affaire-là. Et est-ce qu'il y a véritablement, de ce point de vue-là, convergence entre... Tu as laissé entendre qu'il n'y avait pas totalement convergence entre l'esprit du rapport Mechmash, Baquet, et l'esprit... Et ce qui en sort aujourd'hui à travers les conseils citoyens.
Alors, deux réponses rapides, mais je laisserai la parole. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés historiquement que moi pour répondre à cette question, puisque ils étaient aux manettes au moment où ça s'est fait. Sur la question de l'intention du politique, au fait, c'est très simple, selon moi. On ne peut plus faire sans les habitants. On ne peut plus faire pour les habitants. Il faut qu'à un moment, la politique de la ville soit une politique réellement concertée avec les habitants. C'est la question de la... si vous voulez, de la connaissance, de la connaissance que peuvent avoir les habitants des problèmes qu'ils ont et des solutions qu'ils préconisent. C'est essentiel. On peut plus faire. Ça a duré assez longtemps, je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc, à un moment, il y a eu ce creux de la vague où les techniciens, tous, donc collectivités ou État, faisaient le bonheur des habitants sans eux. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la question de je vois un grand air ensemble et voilà, donc c'est une question urbanistique pure, donc qui ne concerne que les architectes et les urbanistes. Non, les habitants ont des solutions et ils peuvent les construire, on ne peut plus faire. Et c'est en lien, c'est un sujet de démocratie réellement. Au fait, la politique de la ville, c'est réellement un laboratoire qui peut tout à fait, en fait, on peut l'expérimenter parce qu'il y a les moyens, parce que c'est 1500 quartiers, parce que, etc. C'est un laboratoire qui préfigure ce que peut être notre démocratie dans peu d'années, j'espère. La deuxième partie de ta question était sur les convergences-divergences, Baquet-Mechmash et la loi. Au fait, le rapport Baquet-Mechmash, il préconise plutôt ce que j'avais dit tout à l'heure, effectivement, donc sur la question des tables de quartier, c'est-à-dire bien, ils sont bien dans une démarche ascendante, financée. Ils disent, voilà, donc d'un côté on a les partis politiques qui fonctionnent, en fait le raisonnement est très savoureux, on a les partis politiques qui fonctionnent et ils ont des subsides publics, on a les parlementaires, etc. Donc on va ponctionner 1% ou 2% et on va financer un fonds global qui permettrait donc aux associations, alors j'attire votre attention sur un point très précis, pas aux habitants dans le rapport Baquet-Mechmash, c'est bien les associations de constituer, de poser leur diagnostic en ayant les moyens de l'expertise externe, c'est-à-dire voilà, donc, j'ai une difficulté ici, je paye un prestataire pour me dire ce qu'il en est, etc. Et je construis ma propre solution, et après, ultérieurement, j'en discute avec ceux qui ont le pouvoir de le changer. C'est complètement différent des conseils citoyens, qui est, j'espère que j'ai pu faire passer ce message auprès de vous, qui n'est ni ascendant ni descendant, il est dans la loi. Et c'est une très bonne chose qu'il soit dans la loi, sinon il n'aurait absolument aucune chance de marcher, mais il laisse toute souplesse à ceux qui sont dans le contrat de ville, dans les habitants, les associations, mais aussi les élus, etc., à construire la forme qui leur convient dans le respect de 3 ou 4 règles de base dans l'autonomie.
Merci beaucoup. Mathieu. Oui, Mathieu. Enfin, Mathieu.
Oui, Mathieu, parce que tu sais jeter. Effectivement, y compris pour tuer par rapport à tous nos débats de l'année et avec l'intervention de Loïc Blanguiot qui, dans sa conclusion, en fait, disait deux choses sur... enfin, nous invitait à réfléchir, à creuser sur les réponses à comment on creuse de nouvelles formes de démocratie participative et comment on se laisse pas déborder par la société ubérisée. Il a dit l'éducation populaire et la formation. Et je crois que dans l'esprit du ministre de l'époque, quand on a tenu bon sur le fait même de l'inscrire dans la loi, parce qu'on savait que c'était révolutionnaire comme disait Caïs, et de tenir bon jusqu'au bout, et parce que dans la discussion, tant avec les habitants d'un côté, les associations d'habitants d'un côté que les parlementaires, ça n'a pas été évident jusqu'au bout que ça soit maintenu dans la loi. Mais dans l'esprit, c'est bien de dire qu'on passe une nouvelle étape, de dire, puisqu'on demande aux politiques de donner des réponses sur justement comment on refonde cette démocratie participative, prenant comme exemple le fait que les conseils de quartier sont venus à bout d'une certaine logique, elles ont eu un effet de coup d'accélérateur au moment de leur création, parce que dans l'espace public, ça a généré un certain nombre de choses, ça a dégénéré un certain nombre d'autres choses, mais ça a généré un certain nombre de choses, et on est arrivé effectivement à une situation avec la dépolitisation, avec le manque d'engagement dans les partis traditionnels ou dans les associations traditionnelles, et d'ailleurs, ce que tu viens de soulever, Caïs, sur le fait que le rapport disait c'est le financement des associations qu'on cherchait au travers de cette proposition, c'est pas le financement de la participation des habitants plus globalement, ça montre que chacun a ses contradictions de son point de vue, d'où il parle, mais je crois que c'est ça qu'il faut retenir de la loi Lamy avec les conseils citoyens, c'est que on tente de trouver une réponse à ce problème de démocratie et aménagement du territoire. Alors ce n'est qu'une petite arme nouvelle à explorer et le fait est que d'avoir tenu bon montre qu'on a eu raison puisque les plus gênés aujourd'hui sont les élus, d'une part, on le voit bien, soit quand dans les modalités de mise en place des conseils de quartier, ils ont dit oui, mais on a déjà ça avec les conseils de quartier, sauf que non, ce n'est pas la même chose, même si dans la circulaire, il y a eu un certain nombre de choses qui ont permis de faire converger les deux choses, mais on voit bien qu'on est dans un compromis, et c'est parce qu'on a tenu bon sur le principe qu'on peut faire des compromis. Parce que oui, le sujet, il est de faire des compromis, et c'est peut-être ça qui est le plus difficile quand on rentre dans la phase opérationnelle de donner des réponses sur la nouvelle forme de démocratie participative, c'est qu'il y a eu le rapport Mechmash-Baquet, il y a eu la loi, et la forme de hiatus qu'on peut voir a posteriori entre les propositions du rapport et l'adoucissement, voire certaines parties moins dans la mise en place moins innovante que l'idée même du conseil citoyen, et bien il réside dans le fait qu'à un moment donné, il faut tous faire des compromis. C'est là l'enjeu de la démocratie participative, y compris dans la recherche de nouveaux outils, c'est que ça passera de toute façon par faire des compromis. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté ferme, politique, ça a été le cas sur les conseils citoyens, et c'est ce qu'on peut à minima reconnaître à la loi de l'année, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui rétrospectivement, c'est qu'il y a eu un totem de placer dans la loi, et donc tous les commentateurs et tous les historiens maintenant sont face à ce totem, et donc déconstruisent ou construisent à partir de ce totem. Donc c'est aussi comme ça que que le débat public sur la participation des habitants, sur l'aménagement du territoire, il se construit. C'est un totem supplémentaire.
Merci beaucoup. D'autres interventions ou témoignages Oui.
Oui, il y a quelque chose qui me marque, Dominique Forgue, Auchan, donc acteur économique. Et il y a quelque chose qui me marque dans tout ça, c'est que finalement, vous parlez de votre phrase, c'est tout à l'heure, on ne peut pas faire sans les habitants. Mais là, on ne fait pas avec les habitants, on fait avec des représentants des habitants. Et si je fais le parallèle avec, une activité économique comme la nôtre, ça me fait penser à ce que finalement nous on faisait il y a 10 ou 15 ans avec les panels clients. Sauf qu'on ne fait plus du tout ça. Parce que aujourd'hui, les clients, qui sont les habitants, c'est les mêmes personnes, n'acceptent plus d'être représentés. Elles veulent s'exprimer, chacun veut s'exprimer pour lui. Et aujourd'hui, les outils, ce petit outil le permet en permanence. Et nous on le voit bien, parce qu'on travaille, en permanence avec. Aujourd'hui, si on veut s'adresser sur n'importe quel sujet à nos millions de clients, on s'adresse à nos millions de clients. Et j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir un tel écart, enfin qu'on puisse faire vivre un tel écart entre les mêmes personnes lorsqu'elles sont confrontées à des acteurs économiques, quel que soit le secteur d'activité, comme nous, et lorsqu'elles sont confrontées à leurs responsabilités de citoyens. Donc quelque part, j'ai quand même l'impression que on a parlé tout à l'heure de la représentation, on parlait tout à l'heure la remarque sur les syndicats, et quelque part la même chose, qu'on trouve aussi en entreprise. Les gens, en particulier les jeunes, n'acceptent plus du tout l'idée d'être représentés par d'autres, de s'exprimer tout seul. J'ai quand même l'impression qu'il y a un problème autour de ça, que peut-être le système est déjà obsolète avant même d'être mis en place.
Alors, peut-être une précision, les membres des conseils citoyens ne sont pas des représentants des habitants. Ils sont représentatifs des habitants, c'est pas un jeu de mots, hein. c'est la réalité. En fait, la loi Lamy, dans son esprit, n'a pas souhaité dire, par exemple, ce qu'on aurait pu faire, hein, parce que l'administration sait très bien faire ça, il n'y a aucun problème. Vous avez une configuration, donc on a 200 000 habitants dans tel quartier, 50% de femmes, donc ça c'est la parité, de façon bien. Mais par contre il y a 10% d'handicapés, donc il faut qu'il y ait tant de pourcents d'handicapés représentés. Donc c'est pas ça la question. Ils sont représentatifs, c'est-à-dire que, à peu près représentatifs, c'est-à-dire qu'il est demandé à ce que les conseillers citoyens, quand ils se mettent autour de la table, il soit à l'image un tout petit peu du quartier. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas un panel d'utilisateurs ou de consommateurs, mais représentatif. Il y a autant d'hommes et de femmes que si, par exemple, il y a beaucoup d'étrangers, il faudrait qu'il y ait quand même des... Alors, il y a deux mouvements dans les conseils citoyens qui sont très importants, que je n'ai pas évoqué dans mon propos et je vous prie de m'en excuser, qui est, ils ne sont pas là, les conseillers citoyens, pour discuter uniquement avec le monde. Ils sont aussi le relais, ça c'est un autre mot important, donc ils sont à l'écoute, ils sont les oreilles des préoccupations des habitants. Donc il faut que, c'est pas encore tout à fait ça, certains avancent sur ça, dans leur quartier, qu'ils développent des actions en direction des personnes, des habitants, qui ne sont pas membres des conseils citoyens, justement.
Ça, c'est une forme de représentation, justement.
C'est pas tout à fait une représentation, c'est un relais. C'est un relais. Parce que les conseils citoyens ne sont pas fermés, en plus.
D'accord.
Ils ne sont pas fermés. C'est-à-dire que ceux qui sont dans un arrêté, et nous avons le cas tous les jours, ceux qui sont désignés dans un arrêté, les arrêtés sont pris, il y a des arrêtés qui changent tous les deux mois. Le préfet prend un arrêté parce qu'il y a trois nouveaux qui arrivent, etc. Il y a un noyau dur constaté dans les conseils citoyens et autour, il y a beaucoup de mouvements. Donc j'écoute les habitants Et ce qui se passe dans les contrats de ville, ça c'est le deuxième mouvement, c'est ce que j'écoute dans les réunions. Voilà, j'en informe, je discute, qu'est-ce que vous en pensez, quelle décision peut être prise, etc. Ce n'est pas une représentation, c'est bien un relais qu'il s'agit. Ils ne sont pas représentants, mais ils sont représentatifs.
Bien, oui, Pascal.
Vous avez évoqué assez rapidement la question. Ils sont donc représentatifs par représentants, mais ça prend quand même du temps. Pour certains d'entre eux, ça nécessite de gérer d'autres charges, donc enfin, bien professionnelles. La question revient souvent, notamment dans la rémunération lyonnaise hier, secrétaire d'État, à Vaulin, qui connaît après cette commune, a été de nouveau confronté à cette question sur justement quelle indemnité finalement les membres des conseils citoyens de quelle indemnité pourrait-il bénéficier? Est-ce que ce serait pas contraire finalement à l'esprit de la Golani, mais pour autant, comment, non pas avoir une espèce de carotte, mais comment prendre en compte, comment effectivement faciliter cet engagement citoyen pour des personnes qui par ailleurs ont déjà pas mal de, peuvent avoir pas mal d'autres charges? Donc est-ce que cette question doit être tranchée? Est-ce qu'elle peut l'être? Voilà.
Alors, je vous remercie de votre question parce que ça me permet justement d'annoncer au moins deux articles qui sont dans une loi qui est en train d'être discutée actuellement, qui est la loi égalité-citoyenneté. Alors, la question, je parle sous le contrôle de Mathieu, la question a été effectivement dès avant la loi, été posée. Évidemment, il y a, tout à l'heure j'avais cité le CNLE, pardonnez-moi le sigle, c'est le Comité National de Lutte contre l'Exclusion, dans lequel j'ai, où les représentants sont indemnisés pour le... Alors, donc on n'a pas pu mettre en place ça. En fait, il y a beaucoup d'idées qui traversent cette question. C'est est-ce que c'est sur la base du bénévolat, est-ce qu'on prévoit une ligne dans les budgets des contrats de ville pour justement, au-delà des locaux, c'est leur faciliter le plus la vie. J'avais un tout petit peu évoqué une autre hypothèse qui a traversé et qui est la plus, celle qui tient le plus la route actuellement, en tous les cas, celle qui est le plus mise à concrètement en œuvre, qui est celle de, il faudrait plutôt adapter plutôt les horaires et adapter le langage, les horaires, pour qu'ils puissent quand même participer comme les autres qui sont des professionnels. Donc aujourd'hui on n'a pas de solution à ça, mais on en est conscient. En tous les cas, la ministre en est consciente puisqu'elle préside un comité de suivi, donc de pilotage de la mise en œuvre des conseils citoyens, et le dernier qui a eu lieu la semaine dernière, elle a évoqué la question. Cette question, c'est bien la preuve que depuis plus qu'un an, maintenant 2 ans, cette question revient et effectivement, c'est une question centrale. J'avais évoqué la loi, le projet de loi égalité-citoyenneté, il y a 2 articles, dont un au moins qui répond partiellement et de manière complètement imparfaite à votre question. Dans la loi, il y a un article qui dit que il y a un crédit de ce qu'ils appellent le congé d'engagement associatif. Alors, dans le congé d'engagement associatif, l'article dit qu'il y a 6 jours possibles pour ceux qui s'engagent dans les structures associatives et qui participent aux instances, qui peuvent prendre, donc ça devient un droit, sauf que ce n'est pas rémunéré. Donc, mais 6 jours déjà. Donc, c'est mieux que rien. Parce qu'au moins, ils peuvent partir de manière... Donc, je ne sais pas comment ça va sortir par la suite du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais ça existe dans la loi. Et nous avons souhaité, nous, quand je dis nous, pas évidemment le cabinet de la ministre et la ministre, faire bénéficier les conseillers citoyens qui participent aux instances de ce même congé, qui n'était pas conçu pour eux au départ. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, c'est entre les mains du législateur. Deuxième point qui est important quand même, C'est le fameux article 34 de la même loi, du même projet de loi. C'est pour montrer l'importance quand même pour le gouvernement de cette question de participation des habitants. Que dit cet article ? Je, évidemment, ne m'en veuillez pas, je le cite de mémoire. C'est le pouvoir d'interpellation des membres du conseil citoyen. Ils peuvent interpeller le préfet pour intégrer un élément aménagé dans les contrats de ville eux-mêmes. Ce qui est un pouvoir immense. Immense. C'est-à-dire que le contrat de ville a été fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de chronologie qui fait que personne n'a participé à l'élaboration de, ou très peu ont participé à l'élaboration du contrat de ville. Maintenant, si cette loi passe, ça signifie que le conseil citoyen peut demander au préfet, lui dire, le contrat de ville n'évoque pas cette question et je veux que cette question-là soit intégrée dans le contrat et qu'on travaille dessus. C'est un pouvoir immense qui sera dit. Et d'ailleurs, si vous avez le temps, évidemment, comme ça, le week-end, jetez un œil sur les discussions des parlementaires sur cet article de loi, c'est passionnant. Parce que effectivement, tout de suite, les parlementaires, notamment les sénateurs, ont vu la difficulté de l'exercice. Effectivement, c'est donné beaucoup, beaucoup de pouvoir au Conseil citoyen. Et la loi est actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et j'espère que les deux articles vont passer.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la...